Les conséquences sont désastreuses partout où la pénalisation de l'usage de drogue est appliquée, d'un point de vue social, sanitaire et sécuritaire. Et pourtant, la plupart des gouvernements, notamment en France, persistent dans la répression, tout en présentant ça comme une manière de lutter contre les addictions et les dégâts provoqués par les drogues. Les faits scientifiques donnent très largement tort à ce type de politique, mais ne sont pas du tout écoutés. La France est même plutôt balèze pour se démarquer en matière de répression. Encore aujourd'hui, consommer peut valoir une amende très salée, une garde à vue et même jusqu'à 1 an de prison. Et bien sûr, tout ceci ne prend pas en compte la violence avec laquelle l'interpellation peut se faire, les propos déshumanisants, la contrainte physique, le mépris, le jugement. Difficile de considérer tout ça comme une façon de préserver la santé des personnes. Et pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui on ne va pas en prison pour un simple usage, bah c'est faux. 6,1% des personnes ayant comparu devant le tribunal pour usage ont été condamnées à de la prison. Lorsqu'on écoute ce qu'ont à dire les personnes concernées et les différents acteurs médico-sociaux, on comprend que la prise en charge des personnes lorsqu'elle est nécessaire est largement insuffisante, notamment dès qu'il s'agit d'addiction. Manque de temps médical, moyens insuffisants en termes de financement, manque de reconnaissance du travail effectué par les acteurs communautaires sur le terrain. En fait, la situation se durcit. Si les discours sont de plus en plus culpabilisants, les mesures sécuritaires supplantent de loin les mesures sanitaires, les gouvernements qui se suivent et se ressemblent s'acharnent à assimiler l'image du consommateur à celle du trafiquant. Et dès qu'il s'agit de drogue illicite, plus aucune nuance n'est autorisée. Alors comment faire? Comment faire prendre conscience aux gens que, quoi qu'ils pensent des drogués et des drogués, l'approche choisie depuis plus de 50 ans ne fonctionne pas, et qu'aller encore plus loin dans le sens de la répression et de la criminalisation n'apportera aucun bénéfice à l'échelle de la société?
La dépénalisation, c'est par exemple de. Pour un usager, de pas nécessairement prendre d'amende s'il devait avoir une petite quantité de cannabis sur lui, en ne rendant pas marché légal. Et la légalisation, c'est de pouvoir et dépénaliser et rendre le produit légal potentiellement surveillé, comme ça peut exister dans différents pays aujourd'hui, comme au Canada, où ils ont mis ça en place depuis quelques années. Il y a l'exemple du Portugal, où ils ont dépénalisé l'usage de l'ensemble des drogues, de toutes les drogues depuis plus de 10 ans aujourd'hui, ce qui
Enfin,
c'est peu, et
ouais,
avec
peu.
des statistiques intéressantes, on entend les médias dire mais ça a ramené des consommateurs, etc., ce qui n'est pas une vérité. Alors j'ai pas les chiffres précis là aujourd'hui. Il y a eu un effet effectivement qui a suivi la dépénalisation avec une légère augmentation des consommations et de l'expérimentation pour les consommateurs, mais au bout de 15 ans, on a une stabilité du nombre de consommations et une baisse des expérimentations. Le produit étant devenu légal, il est nettement moins attirant, entre guillemets, notamment pour la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à fumer des pétards parce que c'est interdit, parce que ça va à l'encontre de ce que disent les parents, de ce que disent l'éducation, et tout ça, c'est un côté un peu attirant quand on est adolescent et rebelle.
Et puis ces législations moins punitives aussi, ça amène de l'accompagnement des personnes consommatrices aussi, par exemple des mises en place des bus méthadone, etc. Dans certains pays comme en Suisse ou en Angleterre où il y a de la délivrance d'héroïne liquide aussi en pharmacie, ça permet aussi aux personnes d'avoir des produits plus contrôlé toujours, et puis un accompagnement derrière, parce que c'est pas je vais récupérer mon héroïne liquide dans la rue, non, elle est délivrée par un médecin, par un pharmacien, avec un accompagnement derrière aussi, et tout un suivi quoi.
C'est ça. Et l'exemple de la Suisse est intéressant parce qu'effectivement ils travaillent sur de l'héroïne médicalisée pour des personnes qui sont addictes aux opioïdes, c'est-à-dire que plutôt que consommer de la buprénorphine, de la méthadone, des produits de substitution aux opiacés, les personnes vont être délivrées avec de l'héroïne. Qui a été faite en laboratoire dont on connaît les teneurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que la France est le pays le plus dur sur ces questions-là, alors que l'ensemble de l'héroïne qui est mise à distribution des usagers est produite en France.
Et parce qu'on peut peut-être préciser aussi, tout le monde ne le sait pas, mais quand on est dans une addiction aux opioïdes, le sevrage aussi est très 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 compliqué. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain comme ça, quand on a une consommation depuis des années. Le sevrage après provoque des frissons, des douleurs dans tout le corps, vomissements, diarrhées, etc. Et ça peut prendre une semaine, 2 semaines. C'est pour ça qu'on a mis en place des traitements de substitution aux opiacés, qu'on met en place avec la personne et qu'on rediminue de petit à petit. Afin que le sevrage soit plus agréable pour la personne, si je peux dire agréable.
C'est ça. Et une dernière chose, c'est que le contre-effet et l'accès à cette urine médicalisée a permis de tuer le marché noir, justement, de l'héroïne dans ce pays. Et ça aussi, je pense que c'est une donnée qui peut être intéressante. Après, effectivement, le sevrage, il est compliqué. Il est douloureux, et puis là j'ai envie de faire le parallèle aussi avec un sevrage alcoolique, parce que l'alcool est la drogue la plus usitée en France, et c'est une des rares drogues dont on peut mourir du manque, et qui peuvent amener des dommages cognitifs importants dans le cadre de sevrage répété. Support the Spanish, support the punish, support the
punish, support the punish, support the punish, support the punish. Je rebondirai aussi sur ce que tu dis avec aussi les benzodiazépines qui peuvent durer des grosses crises d'épilepsie avec un cas de sevrage brutal.
benzodiazépines qui sont des médicaments utilisés à visée anxiolytique ou voire hypnotique. Donc la question finalement voit que les problèmes d'usage ou de substances peuvent être liés à des substances légales ou illégales, donc finalement c'est pas tellement ça le problème.
Tu peux donner quelques exemples de benzodiazépines qui seraient consommées un peu couramment en France par exemple?
On va avoir notamment le Seresta, l'oxazépam, on va avoir le Valium, le diazépam, l'alprazolam, et d'autres hypnotiques comme les zolpidem qui du coup a été mis sur ordonnance sécurisée, enfin voilà, pour essayer d'éviter ce débordement via le circuit pharmaceutique. Finalement, comme le disaient mes collègues, une addiction, si on sevre quelqu'un brutalement, on peut le mettre en danger, on peut même voir provoquer sa mort, notamment avec l'alcool. Donc c'est quelque chose aussi, c'est une dimension qu'il faut avoir, parce qu'en fait c'est pas juste dire c'est pas bien, il faut changer, ça va être beaucoup plus complexe que ça, et il va falloir aussi faire avec l'acceptation de la personne. On n'est pas là pour forcer quelqu'un à être autre chose que ce qu'il est et qu'il veut être. On va l'aider, on va lui tendre des mains, et c'est un peu, je pense, tout le travail qu'on essaye de mettre en œuvre au quotidien dans nos différentes missions et différents métiers. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est cannabinoïdes et dérivés, il y a quand même, je trouve, en tout cas dans mes yeux personnels et de pharmacien aussi forcément, une petite hypocrisie par rapport à tous ces CBD shops qui finalement, je trouve, il n'y a pas beaucoup toujours de contrôle. Enfin, en tout cas, nous, on a déjà eu des usagers qui nous ont ramené des choses achetées de manière légale, qui pour le coup n'étaient pas des substances légales et qui n'avaient pas connaissance qu'ils allaient consommer quelque chose qui allait pouvoir les mettre dans un état qui peut être grave ou assez déstabilisant sur le plan psychique notamment. J'ai pas la solution, j'ai pas la bonne idée, mais je me dis que quand même, il y a un marché assez juteux sur tout ce qui est CBD et annexes, mais par contre on ne contrôle pas et on ne protège pas toujours bien la population ou les gens, et donc l'idée serait peut-être d'avoir peut-être quelque chose où on a un circuit identifié avec des numéros de lot, avec des choses qualitatives pour pas mettre en danger les gens, et que ce soit au bonheur la chance, toi t'es le client 10, t'as de la chance, t'as eu le bon produit, mais le client 12 il va avoir le produit qui va le mettre mal, quoi.
Il y a une espèce aussi d'hypocrisie, tu penses, à offrir une alternative ou pseudo-alternative.
Je pense surtout qu'on dit que c'est moins psychoactif. Du coup, alors je sais pas si on peut appeler ça une hypocrisie, mais il y a peut-être une erreur sur le fait de croire que ça peut être moins gênant, en fait. Et du coup, ça ouvre une voie où on se permet de faire des choses qu'on se permettrait absolument pas sur d'autres substances. Et le CBD, là, on voit de plus en plus d'interactions avec des médicaments. Il y a eu justement une alerte de l'ANSM aux professionnels de santé pour faire attention, parce que c'est des substances qui peuvent interagir avec des médicaments. L'Agence nationale de sécurité du médicament, finalement, qui va lancer des alertes sur tout ce qui est médicaments, interactions.
Et simplement rappeler que le cannabis, c'est un stupéfiant. Pas l'alcool. Pourtant, l'alcool, statistiquement, comme ça a été rappelé, c'est bien plus dangereux.
Minoritized communities too familiar with the sirens of police. The death penalty batted away with the flutter of an eyelid. More funding's needed to end health inequalities and epidemics. If those in power do not support this humanizing conversation, how much longer will we chant support, don't punish?
Quoi, vous avez décidé de soutenir cette campagne? C'est une position, je sais pas, liée à la légalité, c'est quelque chose d'éthique, c'est sanitaire, c'est militant.
Pour moi, c'est un peu tout ça en même temps. Notre travail déjà de base est quand même assez militant. C'est un moment aussi où on peut parler de ce qu'on fait, des accompagnements qu'on fait avec les personnes qu'on accueille, de le faire connaître un peu plus au grand public, parce que c'est encore méconnu. Je le vois par exemple dans mon cercle amical, où peut-être 90% des personnes qui m'entouraient ne savaient pas ce qu'était un CARUD avant que j'y travaille. Et puis pour aussi mettre en avant les personnes qu'on accueille, dans les XAPA aussi, qui sont des centres de soins, du coup, des centres dans lesquels les personnes vont pour dans une dynamique d'arrêt. Oui, et puis après, il y a mon côté militant à bouger, j'aimerais bien faire bouger des choses, ou il y a cette loi de 70 qu'on aimerait bien abroger aussi.
En 1970, on est 2 ans après 1968, et il y a, aux yeux d'un certain nombre d'hommes politiques, un problème d'autorité en France. Il n'y a pas vraiment de problème de drogue. On consomme beaucoup plus de cannabis aujourd'hui en France qu'on en consommait à l'époque. À l'époque, on consomme pas de cannabis, en fait. Par contre, il y a un discours contre-culturel autour des drogues, autour de la nécessité de s'ouvrir l'esprit. C'est 68, donc l'interdiction d'interdire. Comme souvent en matière pénale, on a un fait divers qui va catalyser la production législative. Donc le fait divers, c'est une jeune fille de bonne famille qui va mourir sur une plage à Bandol après avoir pris du LSD. La classe politique s'empare de ce fait divers. Donc dans l'esprit des députés et des sénateurs de l'époque, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le cannabis, de ce que c'est que le LSD, de ce que c'est que l'héroïne, il y a juste une figure de la drogue comme produit aux conséquences dangereuses pour la société, notamment en ce qu'elles peuvent perturber, mettre en danger l'ordre social. Et donc on vote cette nouvelle loi, une nouvelle loi qui va faire de l'usager de stupéfiants et donc de l'usager de cannabis à la fois un malade qui doit être traité et un délinquant qui doit être puni s'il refuse d'être traité. Mais ce dispositif, il s'est révélé complètement inadapté parce qu'il y a de très nombreux consommateurs occasionnels de drogue et notamment de cannabis qui ne sont pas du tout des usagers problématiques. Donc ce ne sont pas des usagers dépendants, ce ne sont pas des toxicomanes au sens où on l'entend habituellement. Pas adapté.
J'ai voulu participer à cette campagne, c'est aussi parce que ça a du sens par rapport à tout ce qu'on essaye de faire au quotidien à travers nos missions. Et aussi essayer de porter quelque chose qui peut être différent et qui peut peut-être essayer d'englober un peu plus la complexité du sujet et la dignité de la personne. On est souvent avec un public qui va être mis aux frontières externes de la société, et c'est aussi pouvoir donner la parole à ces personnes-là et leur permettre d'accéder, re-accéder aussi à des structures qui peuvent les écouter, les prendre en charge, et pas juste faire pour la majorité en fait. Enfin, moi, il y a cette question aussi d'éthique un peu, je pense, d'éthique, de dignité de la personne, et d'essayer de faire qui devrait, pour en tout cas essayer, pour quelque chose qui a du sens en fait. Je pense que ça n'est pas du tout contradictoire avec ma profession, bien au contraire. À partir du moment où on l'a bien rappelé, l'idée c'est pas d'inciter les gens, mais c'est d'accompagner ceux qui sont dans ces problématiques-là et d'accepter qu'elles existent, ces personnes. Pas se mettre des œillères et se dire ça n'existe pas, tout va bien.
Moi, c'est ça, Support Don't Punish, c'est une mobilisation citoyenne pour dénoncer les politiques répressives en matière de drogue. C'est pour promouvoir les approches fondées sur la santé et les droits humains. Donc là-dedans, il y a la question de la mobilisation citoyenne. Et cette action, elle s'inscrit parfaitement avec le travail qu'on fait tous de manière un peu différente quotidiennement, dans le but de faciliter la parole et de pouvoir remonter les problématiques existantes, dénoncer des choses qui sont non fonctionnelles à titre juridique, sur le côté carcéral, sur toutes ces questions-là. L'idée de cette journée, c'est vraiment de changer le regard du grand public, des personnes qui nous entourent, sur les politiques des drogues existantes.
Sur les politiques et aussi sur le regard qu'elles ont aussi sur les consommateuristes, parce qu'il y a le cliché du consommateur qui va shooter dans les parkings, qui est sale, qui embête, qui laisse ses seringues partout, qui peut faire... Enfin, les consommateurs, c'est pas ça, c'est pas que ça. Je rentre chez moi, je me fais un verre de vin et je prends deux Xanax, je suis consommateur aussi.
Ouais, c'est un peu tout le monde.
Voilà, et c'est montrer qu'il y a une pluralité de consommateurs, en fait, et casser des clichés, en fait, qui sont là, qui sont existants.
Et... C'est ça, et puis là, on ne parle que des drogués produits. Quand on parle d'addiction, on parle aussi d'addiction aux écrans, on peut parler d'addiction au sexe, il y a beaucoup de choses qui peuvent être retrouvées autour de ces questions-là aussi. Là, aujourd'hui, on est ici aujourd'hui, nous, pour parler de cette question de drogués produits au sens large, mais voilà, on peut rentrer énormément d'autres choses avec des schémas addictifs qui sont les mêmes, en fait, que sur la consommation de drogues et produits.
Alors ça me permet de rebondir peut-être sur le droit à l'autodétermination, sur la capacité des personnes à décider pour elles-mêmes en fait, dans leur rapport aux substances, dans la gestion de leur consommation par exemple, leur arrêt.
Bah ça c'est typiquement ce qu'on fait dans les carrures en tout cas, quoi. Les personnes viennent récupérer du matos, on leur en donne. Il y a des personnes qui choisissent de consommer ou pas en fait, qui ne choisissent pas des fois aussi, de consommer toute leur vie. Si un jour elles ont l'envie d'arrêter, de diminuer, d'en parler, nous on sera là. En tout cas, il y a aussi des qui font qu'elles n'ont pas vraiment de choix non plus. Une personne qui est à la rue, elle consomme pour oublier qu'elle est à la rue, qu'elle doit cavaler à droite, à gauche pour aller à des rendez-vous qui sont éparpillés dans toute la ville. Quand un cadre en fait social est pas là, c'est compliqué aussi de choisir d'arrêter, quoi.
Oui, c'est ça, et puis c'est là où on peut parler, tu parles de précarité, c'est là où on peut parler de problématiques mentales, etc. C'est là où on peut parler de toutes ces questions, hein. Pour donner un ordre d'idée sur un chiffre, mais qui est une extrapolation, on considère par exemple sur le carré d'où je travaille que 60% quasiment des usagers qui passent la porte viennent par exemple de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, avec des parcours chaotiques, des traumas, des violences, des viols sexuels, et qu'on a énormément de personnes personnes qui sont aujourd'hui en rue, qui présentent des problèmes, des soucis d'ordre mental, etc. Et que la drogue, c'est aussi un échappatoire. C'est une manière d'arriver à vivre un quotidien où, quand on est en grande précarité, on est regardé d'un regard hautain et jugé par les passants. Et que ça permet, en fait, tout simplement de supporter ça. Par exemple, l'exemple d'une restauratrice qui, lors d'un divorce, perd son restaurant, perd sa maison, se retrouve en rue et se retrouve à 51 ans, au bout d'un an de rue, à consommer du crack pour arriver à gérer et à supporter sa condition de vie. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en termes d'addiction, personne n'est à l'abri et que nos trajectoires de vie peuvent facilement nous faire tomber sur ce versant addictif et problématique.
Pas moi, si quelqu'un a acheté de la kétamine et qu'en fait c'est de la MDMA, ça va pas du tout être le même effet, quoi. Du coup, pas du tout le même discours de réduction des risques par rapport à certains aspects. Par exemple, si on consomme de la MDMA, il va falloir faire attention à son hydratation, à pas avoir de traitement antidépresseur notamment, des choses comme ça. Enfin, ça va augmenter le niveau de sérotonine dans notre corps. Et le risque, c'est de faire une réaction d'hyperthermie, donc d'avoir le corps qui monte en température beaucoup trop. Voilà, ça reste une substance, donc elle a toujours ses effets positifs qui sont recherchés par les usagers de drogue, mais elle aura toujours ses effets indésirables qui sont connus.
Pour moi, l'ensemble de ces outils, donc ça va être le matériel, le TROD, le test d'orientation au diagnostic, qui sont les dépistages hépatite C, hépatite B, VIH, syphilis, qu'on peut mettre en place avec des résultats immédiats pour les personnes, l'analyse de drogues et produits. Toutes ces questions-là, en fait, pour moi, ce ne sont que des moyens qui nous permettent d'avoir un espace-temps avec un usager pour parler de manière simple de ses pratiques à lui, à elle, et de pouvoir adapter des outils de réduction des risques qui correspondent potentiellement à sa consommation, à lui ou à elle. Tout ce panel d'outils, c'est ça, vraiment ça, c'est des moyens de rentrer en relation avec l'autre. Et c'est ça qui est le plus important.
Les stupéfiants sont au cœur des difficultés que nous avons. Alors, je veux ici passer un message à la responsabilité collective, et pardon de le dire en des termes qui sont assez directs. Mais on ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupes, et glorifier la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients.
On va parler un petit peu maintenant de la fameuse guerre à la drogue, qui me semble un mythe d'État, on va pas se mentir, une espèce de fantasme total, une espèce de stratégie politique sécuritaire, complètement instrumentalisée. La campagne plus récente, là, qui date du 6 février 2025, Bruno Retailleau, notre bon ministre de l'Intérieur, il lançait officiellement une campagne de culpabilisation des consommateurs de drogue, affirmant vouloir punir leur rôle dans l'offre illégale. Darmanin qui veut faire des prisons de haute sécurité, etc. Je pense que le plus simple, c'est d'écouter Bruno taper 45 minutes de discours ce matin. Merci à vous.
Ah oui, t'es courageux.
Ouais.
Merci d'être venu si nombreux pour cette conférence de presse qui, je dois dire, est aussi une première. Vous me permettrez de saluer le préfet de police, le directeur général de la police nationale, et le major général de la police, de la gendarmerie nationale, général. C'est une première parce que la campagne que nous allons diffuser, ce n'est pas une campagne de sensibilisation. C'est une campagne de culpabilisation. Et cette culpabilisation, je l'assume totalement. J'assume de vouloir rompre avec cette logique victimaire qui consiste à présenter les consommateurs de drogue exclusivement comme les victimes d'une addiction. Bien sûr, je sais, il y a des malades. On doit s'en occuper. Je ne suis pas ministre de la Santé. Je suis ministre de l'Intérieur et mon rôle, c'est d'assumer l'ordre public. Elle déresponsabilise les consommateurs de drogue parce qu'on ne les place pas en face des conséquences de leurs actes. C'est fondamental, nous l'assumons, aussi bien contre les narcotrafics, mais aussi avec cette politique qui permettent à nos forces de l'ordre de recourir davantage aux amendes forfaitaires contre les consommateurs. Que derrière ces paradis artificiels, il y a l'enfer qui, lui, est bien réel. Au bout du joint, au bout du rail de coke, il y a le canon des armes qui tue, et qui tue en France, en 2025. Il faut ouvrir les yeux. Et comme j'ai déjà dit, fumer un joint, prendre un rail de coke, eh ben, c'est avoir du sang sur les mains.
Bon, tout dans la nuance, hein. Merci Bruno. Tradition où l'État punit les plus précaires au lieu de les protéger. À qui s'adresse vraiment cette guerre et qui l'a subi ?
Ceux qui la subissent le plus, c'est les communautés les plus précarisées. Moi, je travaille aussi sur un dispositif qui s'appelle Tapage, qui est travail alternatif payé à la journée, où on fait travailler des jeunes entre 16 et 25 ans, consommateurs de produits psychoactifs, et dont une grosse partie viennent des quartiers prioritaires de la ville, dans des quartiers chauds de Toulouse, le Mirail, Ampalo, etc. Et effectivement, moi j'ai beaucoup de nos jeunes qui prennent amende sur amende sur amende. La majorité n'ont pas de ressources, la majorité sont non imposables. À mon sens, ce système qui a été mis en place d'amende n'apporte pas grand chose de ce qu'en tout cas je peux voir et entendre, et ne les empêche absolument pas de vouloir continuer leur consommation.
L'action des services de sécurité publique au cours des dernières années en matière de produits stupéfiants a été marquée par la priorité accordée dans une approche essentiellement statistique à la répression de la consommation. Donc les magistrats de la Cour des comptes nous expliquent que la police, depuis un certain nombre d'années, se concentre pour des raisons statistiques sur la répression de la consommation plutôt que sur la répression des trafics. C'est Nicolas Sarkozy qui a poussé dans cette direction dans un premier temps, mais après tout le monde a suivi. On a institué une gouvernance par les nombres de l'activité de la police, par lequel on attend d'elle qu'elle remplisse des objectifs chiffrés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la constatation d'un usage de stupéfiants vaut résolution d'une affaire. Et donc, si vous chopez 4 mômes autour d'un joint, vous allez d'un seul coup résoudre 4 affaires pénales. Et donc, statistiquement, c'est très efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le volet sanitaire de la loi de 70 s'est révélé incapable de remplir ses promesses, eh ben, c'est le volet répressif qui a pris le relais.
Quant à la culpabilisation, c'est un discours qui est compliqué pour moi à entendre personnellement. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il amène pas grand-chose, à mon sens en tout cas, pour un consommateur. Il y a très peu de consommateurs que j'ai tenté toucher par ce type de campagne, en tout cas.
Oui, et puis il culpabilise déjà tous, beaucoup, du regard des gens dans la rue, du regard qu'on porte sur le consommateur de produits. C'est déjà assez compliqué, assez culpabilisant aujourd'hui de consommer. Ça rajoute une couche, on va dire. Là.
C'est un mot qui m'a choqué, culpabilisation, parce qu'en tant que professionnel de santé, c'est comme si je disais à mon patient diabétique qui arrive pas à arrêter le sucre, que je lui disais, mais de toute façon, c'est de ta faute. C'est moi, en tant que médical, c'est pas un mot... qui fait partie du jargon et de ce qu'on nous apprend, ou en tout cas ce qu'on essaye de faire au quotidien.
Puis là encore, la culpabilisation, elle a tendance à freiner aussi l'accès aux structures comme les nôtres. Si on culpabilise fortement les usagers, ça va être encore plus compliqué au-delà de l'égalité de pousser la porte de structures comme les nôtres pour tâcher de prendre soin de lui, d'elle, de sa santé générale et autour.
Ouais, c'est infantilisant et c'est une position de toute façon ascendante, très jugeante.
Les lois prohibitionnistes ont un fondement raciste qui permet d'exercer un contrôle légal sur des populations jugées étrangères, alors qu'elles ne le sont même pas forcément. Par exemple, en France, une étude de 2023 a montré que les Noirs étaient contrôlés 3 à 9 fois plus souvent que les Blancs. C'était 3 à 14 fois plus souvent pour les Nord-Africains, les personnes identifiées comme arabes. L'intervalle dépendait notamment de l'endroit où se trouvaient les personnes, avec une prévalence plus importante dans le métro parisien. Et la raison de ces contrôles? Bah, le plus souvent une politique du chiffre dans la police qui pousse les agents à contrôler afin de trouver rapidement des petits délits. Et on peut voir dans le rapport 2024 de la Commission globale de politique en matière de drogue que ce problème est présent dans tous les pays qui participent activement à la War on Drugs.
Et puis il faut voir aussi que dans la loi de 70, en fait, considérait en fait personne usagère de stupéfiants comme un délinquant, elle le considère aussi comme une personne malade. Et donc il va même à l'encontre dans son discours là de la loi qui pénalise en fait tout consommateur de produits et qui les considère quand même comme malades, quoi.
Et il fallait qu'il accepte de ne plus consommer pour pouvoir être abandonné des charges. Donc après il y a eu l'épidémie sur tout ce qui est VIH, SIDA, qui a fait que finalement des personnes comme Simone Veil et autres ont œuvré pour qu'il y ait un accès à du matériel stérile, d'une vraie politique de santé publique et de réduction des risques. Et après, il y a eu les autosupports, avec notamment l'usage par les pairs. Autosupport, ça veut dire que c'est un support par les gens qui sont eux-mêmes usagers, anciens ou actuels usagers, et notamment avec Assud, qui a développé pas mal de communication, de choses, et des forums aussi à l'heure actuelle avec psychonautes psychoactifs qui peuvent être des ressources pour parler de substances.
Pour rappel, c'est la première fois pendant l'épidémie de VIH qu'il y a des patients qui se sont mis en opposition avec le médecin et qui ont dit au médecin, attends bonhomme, je connais mon corps, je connais ma maladie, j'ai besoin de m'exprimer là-dessus, j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu prennes ma parole en considération. C'est ce qui a permis de développer ce qu'on appelle chez nous le savoir profane, et donc le savoir lié à l'expertise de l'usager, quelle qu'elle soit, que ce soit à travers la maladie, de ses consommations, de son addiction, etc. Et cette parole-là, elle est extrêmement importante pour nous.
Et il faut savoir aussi que les usagers injecteurs, à l'époque, faisaient de l'auto-injection. Le personnel médical ne connaissait pas cette pratique et a dû apprendre aussi, grâce aux usagers, comment l'auto-injection était possible. Le médecin était forcément assisté d'un infirmier, d'une infirmière, etc. Et c'est grâce à certains médecins aussi qu'on a vu apparaître les premiers kits d'injection, certains pharmaciens et les usagers aussi qui ont apporté leur connaissance de « il nous faudrait tel matériel dans un kit, il nous faudrait tel truc ». Et ça a commencé à passer un peu sous le manteau, dans les pharmacies, avec des médecins militants aussi.
C'est ça, ça a commencé en 87 avec le décret Barzac, du nom de la ministère de la Santé de l'époque, qui a permis de légaliser le fait de pouvoir distribuer des seringues. J'ai travaillé très longtemps l'association Aide également, j'ai connu des militants qui achetaient pas avec leurs propres deniers, des seringues en Angleterre, se les faisaient livrer chez eux pour pouvoir les distribuer en toute illégalité pour limiter les contaminations VIH, hépatite C à ce moment-là. Et c'est là où on peut parler effectivement de la militance qui est inscrite pour nous dans nos cœurs de métier.